Et nous revoici, toujours presque en direct avec un direct, un différé de 7 jours. Depuis le SOS Musique organisé par et pour l'école John, mais aussi tous ses sympathisants, tous les amis, tous les curieux, le public qui vient et qui vient voir entre les showcases, les démonstrations de force, les crêpes aussi d'ailleurs, il y en a, qui viennent voir et se renseigner, voilà. Participer, presque communier finalement autour de la musique, ce fameux langage dont on parlait tout à l'heure. Et on va pas vraiment basculer de sujet, on va continuer un petit peu dans cette lancée en parlant de ce projet qu'on a à peine effleuré tout à l'heure, le fameux projet La Plume de Moïra. Qu'on décrit de manière globale et générale comme un objet artistique. Avec moi, je reçois Franck. Salut.
Salut.
Ça va ?
Très bien.
Bon, et ben justement, tu fais partie de ce collectif, de ce projet.
Oui.
Il y a du monde là-dedans.
Oui.
Il y a des choses. Il s'y passe des trucs. On y rencontre des influences, des styles, des disciplines. Mmh. On mélange le tout. Et comme on aura l'occasion de l'entendre aussi ce soir, on parle d'un vase.
Tout à fait.
Un vase qu'on va un peu secouer peut-être. Pas trop, pour pas trop donner le mal de mer. Et puis, à partir de ce fameux vase, justement, on va en sortir des choses. Eh bien, on démarre avec Franck, et puis on reçoit aussi en même temps, puisque on l'a déjà eu tout à l'heure, et on en a déjà un petit peu parlé, mais on va y aller avec John. Et John, justement, on parle de ce fameux projet, La Plume de Moïra. C'est quoi la plume de Moïra ? Qu'est-ce qu'on en fait ? À quoi ça sert ?
J'adore les questions à quoi ça sert.
Mais n'empêche, un projet artistique, finalement, au sens large, à quoi ça sert ? À quoi ça sert de produire du beau, de produire de l'art ? À quoi ça sert ?
Il faudrait que
je suis à 4 heures.
Non, c'est rigolo parce que c'est une question mot pour mot, qui est écrite dans un des trucs que j'ai écrit il y a quelques années déjà. L'art, à quoi ça sert ? Est-ce que j'ai le droit d'aller reprendre le livre que j'ai écrit, Les Chroniques on décro, il y a quelques années ?
Dans tes 4 heures, t'as le droit de faire l'aller-retour,
bon,
si tu veux.
À tout à l'heure. Nous, sur ce projet-là, sur la plume de Moïra, déjà, ça sert à dire on peut avoir beaucoup, beaucoup de différence à beaucoup de niveaux, que ce soit même basiquement générationnel. Dans la plume de Moïra, ça va de 25 à 77 ans à peu près. On n'a pas du tout les mêmes courants d'art, loin de là même. Hein. Et certains courants chez des membres de la plume de Moïra sont complètement inconnus d'autres membres, des techniques aussi. Et en fait, on arrive à faire un truc ensemble, quoi.
Parce que justement, en fait, finalement, un peu par insolence, quand on pose la question l'art, à quoi ça sert, il va se trouver des gens qui disent mais ça ne sert à rien, ça ne produit rien, ça ne rapporte rien, ça ne. Mais justement, dans l'autre sens, la plume de Moïra, qu'est-ce que ça nous apporte, qu'est-ce que ça va vous apporter? Et de manière subsidiaire, c'est quoi la plume de Moïra ?
Déjà, ce que ça nous apporte, c'est un partage obligatoirement en profondeur. Donc les 10 membres entre nous, on a fait, c'est rigolo parce que le mot a été posé a posteriori, mais on a fait un séminaire en fait. On s'est vu notamment avec les visibles de la plume de Moïra, qui sont les 4 musiciens visibles parce qu'eux, ils sont sur scène. Et les ombres, donc tous les autres membres de la plume de Moïra, qui ne sont pas dans l'ombre, mais en tout cas, ils ne sont pas visibles au niveau du public en physique. Et donc, on a fait 2 jours de travail comme ça, sur lequel on s'est réunis pour une fin de journée, toute une soirée, l'ensemble de la plume de Moïra. Et c'était passionnant de voir les interactions, en fait, entre personnes, entre, j'allais dire, corps de métier, corps artistique, De voir que le vidéaste, finalement, a passé les trois quarts de sa soirée avec la sculpteuse. Alors que, de base, ils vont pas se rencontrer, ces gens-là, en fait. Donc, la plume, c'est ce petit cadre-là de dire on se rejoint et, en fait, on s'apporte. Et derrière, à quoi ça sert? Ben déjà, au sein de la plume de Moira, il y a des choses qui en découlent, des projets autres que ceux de la plume de Moira. Je pense notamment, ben, par exemple, à Franck qui est avec nous, qui a, ben, du coup, qui possiblement peut préparer une expo un peu plus importante et qui a été lancée par le travail qu'on a à l'intérieur de la plume. Il y a des écrits en commun, il y a de l'écriture de partitions. Et de tout ça, rien n'existerait concrètement. Et juste pour rebondir à ce que tu disais par rapport à ça apporte rien, nous, on espère devenir très riches.
Bah, j'en doute pas une seconde. Alors, instinctivement, quand on lit et quand on entend la plume de Moira, et tu viens d'en parler un peu, on pense écriture. On pense écriture, on pense à coucher des pensées sur du papier, à coucher des sentiments, des émotions. La plume de Moira, vous pouvez nous en parler un tout petit peu, juste rien que du nom, sans forcément expliquer le nom, mais l'inspiration, l'origine.
Je commence.
Oui, je passe. C'est toi qui l'as créé, donc c'est toi qui en parleras le mieux, là.
Le nom a été le plus long à trouver, comme souvent on le sait, en fait. Mais ça a été long parce qu'il fallait quelque chose de vraiment précis. En premier, y a une figure qui sont les trois sœurs du destin, les Moires dans la mythologie grecque, qui sont souvent plus connues comme les Parques dans la mythologie romaine. Et Moira, en fait, c'est le terme, on va dire, emprunté au grec, qui symbolise les trois sœurs en même temps. Donc il y a Clotho, Lachésis et Atropos, qui sont les trois sœurs qui tissent le fil des existences. La seconde les déroule et la troisième les coupe.
Ouais.
C'est une figure qu'on retrouve finalement, une espèce de trinité, qu'on retrouve dans énormément d'œuvres cinématographiques, etc. Et ce que j'aime dans ces trois sœurs, c'est qu'elles sont... alors on les appelle les sœurs du destin, pareil, entre autres, et... malgré le fait qu'elles soient dans certains textes elles sont des filles de Zeus, mais elles étaient là avant lui, mais ça, dans la mythologie, on a l'habitude d'avoir des trucs qui marchent pas dans les arbres généalogiques, hein. Et surtout, elles ont les clés du destin, elles ont même les clés du destin des dieux, donc elles sont invisibles, totalement invisibles, elles sont rarement citées, et finalement c'est elles qui tissent tout. Et elles-mêmes, entre elles, n'ont pas de pouvoir l'une sur l'autre. Donc c'est une espèce de force. Alors on a beaucoup parlé de destinée, en fait, qui est au-dessus des religions, ça c'est clair. Et moi, ça m'intéressait d'avoir ce... Alors on va dire la foi, j'en sais rien. Ce n'est pas religieux, en fait. Moi, je me définis, d'ailleurs, c'est ce qu'a fait Franck à plus d'une reprise, hein, comme humaniste, c'est-à-dire avoir foi en l'humain, avant la foi en autre chose. Et ça, c'est le filigrane du projet, en fait. D'où derrière, j'ai découlé un travail donc, d'écriture sur des moments de l'humanité, et même plus que de l'humanité, en fait, puisqu'on a un texte Cyanobacteria qui traite des cyanobactéries, donc il y a 2,5 milliards d'années, mais on ne serait pas là sans elles. Et donc, c'est des points de détail dans la chronologie de la vie en général, et des détails qui sont insignifiants, de la même manière qu'une plume, et qui ont pourtant eu un pouvoir énorme et qui ont modifié toute la vie qu'on connaît actuellement, en fait. Je prendrai juste l'exemple du ciel de Kokula, celui qu'on utilise le plus souvent parce qu'il est très explicite. C'est le bombardier qui va poser la bombe nucléaire pendant la Seconde Guerre mondiale sur Nagasaki, pas celle d'Hiroshima. Et en fait, ils font un premier passage. Il y a des nuages sur la ville de Kokula, qui est la première cible, en fait. Et ces nuages, il y a tout un mythe dessus, parce qu'il y en a très peu, mais on ne sait pas encore d'où ils viennent. On n'est pas dans les théories extraterrestres ni rien, mais une des possibilités serait que les habitants de la ville aient entendu assez à l'avance arriver le bombardement, et en fait, se sont mis à brûler tout ce qu'elles pouvaient, pour créer de la fumée au-dessus de la ville et pour éviter que le bombardier puisse lâcher la bombe. Mais ça, on ne le sait pas, en fait. C'est une des théories. Le fait est que pour trois nuages au-dessus de Kokula, ben, le bombardier est parti sur Nagasaki. Donc c'est d'un côté les habitants et la ville de Kokula qui est sauvée par trois nuages. Bon, ben, de notre côté, il y a Nagasaki qui a tout pris, quoi. Et tout ça pour trois nuages, hein. Quelques particules d'eau dans l'air, quoi. Donc ça, c'est tout à fait représentatif des détails. On va parler de ces trois nuages-là, en fait.
Et de la destinée, justement. Tu parles de présider la destinée de quelque chose, de quelqu'un et tout ça. Et c'est un peu ce truc, le Mektoub, c'est écrit, ou en tout cas, quelque chose d'un peu, oui, religieux ou pas, en tout cas, peut-être d'une croyance, en tout cas, en quelque chose qui permet de déterminer une destinée. Voilà, avec les fameuses sœurs.
Alors, ce qui est très, très intéressant, c'est que dans la plume de Moïra, on a un philosophe, Pierre-Jean Brassac. Et on est tous aussi animés par la réflexion de manière générale. Et Pierre-Jean a écrit un texte là récemment, qui n'est pas encore sorti, qui est un dialogue entre les trois sœurs, donc sur quelques pages, c'est pas un livre entier, mais qui en dit déjà beaucoup, et où justement il creuse cette question. Allez, pour le simplifier, est-ce que s'il y a des sœurs du destin, ça veut dire qu'il y a un destin qui est tout tracé, ou est-ce que ça veut pas dire l'inverse? Et là, on a des textes en cours qui sont passionnants, parce que justement, non, il y a pas, bon, comme tout philosophe, il donne pas la réponse. Mais par contre, il donne matière à réfléchir. Et le postulat de départ serait de se dire, oui, par rapport à ce qu'on dit, c'est peut-être écrit. Mais en fait, peut-être pas du tout. Et nous, c'est le pas du tout qui nous intéresse. C'est d'aller chercher ce qui n'est pas du tout écrit et qui pourtant a les conséquences majeures.
Le collectif de la plume de Moïra, vous êtes combien à officier, que ce soit dans l'ombre ou en visibilité?
Oui, on est 10.
Alors, qu'est-ce qu'on détermine comme... Il y a peut-être aussi des passerelles, des gens qui vont faire plusieurs choses, plusieurs disciplines, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on y trouve dans la plume de Moïra?
Il y a Franck qui a deux casquettes.
Ah.
C'est le photographe artistique de la plume de Moïra. Et moi, ça m'intéressait de travailler avec lui, outre le fait que ce soit mon papa chéri, parce qu'il a quand même été metteur en scène pendant des années, un travail que j'appréciais beaucoup, et scénographe. Et donc, du coup, il a un peu ce petit rôle-là aussi scénographique, parce qu'il faut bien imaginer que mêler ces 10 arts, ces 10 artistes en tout cas...
Ça demande de la coordination.
Exactement.
Et une direction artistique.
On n'en est pas là encore, parce que c'est le tout début. On n'a pas vraiment approfondi le sujet de la scénographie en ce qui concerne les morceaux musicaux en particulier, que je ne connais pas. Ça sera la grande surprise ce soir, parce que ça faisait partie aussi des prérequis de ne pas tout découvrir de suite. Ça mâcherait un peu notre travail de réflexion. Donc effectivement, à partir de ce soir, je pense, où j'aurai effectivement vu et entendu les morceaux, on pourra mettre en place une vraie scénographie spécifique à la plume de Moïra. Pour l'instant, elle est... Bon, si, il y aura quelque chose, mais il y aura de la vidéo, de la lumière, mais c'est encore un travail de réflexion. Il faut dire que la plume Moïra, c'est tout nouveau quand même, hein, pour les artistes qui connaissent un peu le principe de création. Ça ne fait que quelques mois, quoi. Personnellement, je pense que ça fait trois mois, quelque chose comme ça. Donc pour nous, c'est tout frais. D'habitude, on met un an et demi. Là, ça fait trois mois, donc on est à fond.
Sur la partie Les Visibles, il y a un héritage issu d'un autre groupe, dont certains membres sont empruntés au groupe, le fameux projet Shape, qu'on a déjà vu officier ici sur le SOS Musique. Mais absolument, absolument, qui a une histoire, avec, bien sûr, avec l'école John. la migration vers un nouveau projet, ça s'est fait un peu en même temps. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, dans ce projet, la plume de Moïra, on va mettre de la musique, on va mettre de l'écriture musicale. Qu'est-ce qu'on fait? On sublime un peu, ou on réutilise, ou on reprend des talents et des idées d'un autre projet qu'on veut faire évoluer, ou alors ça arrive plutôt différemment. C'est au départ, le projet contient pas forcément de la musique, mais tiens, pourquoi pas faire rentrer ça dedans. Comment on est arrivé à cette forme aussi variée du projet dans son ensemble?
Alors, en premier, moi, depuis quelques temps et depuis quelques années, pour avoir eu l'occasion d'être sur pas mal de projets assez éclectiques, parce que quand on ouvre la porte, c'est ce qui se passe, hein, et c'est ce qu'on veut. Donc, que ce soit de la production de musique pour des documentaires internationaux, pour du théâtre, pour du concert, pour des cours, comme on peut l'entendre aujourd'hui. Je commence à envisager plutôt, je vais dire, mes créations comme une constellation. Tout est lié, en fait, depuis réellement très, très fort, depuis 5 ans à peu près. Donc, en effet, à l'époque, il y a 5 ans, j'étais dans une formation qui s'appelait Shape, où on faisait du rock instrumental, puisque moi, quand même, j'ai une petite faiblesse pour l'instrumental, parce que je suis compositeur et que le fait de ne pas mettre de chant oblige à aller composer différemment. Dès qu'il y a du chant, je ne dis pas que c'est moins bien, mais on est sur d'autres ficelles et qui m'intéressent moins. Moi, j'aime bien creuser, j'aime bien les contraintes. Donc, en effet, il y a quelques années, il y avait cette formation Shape, rock instrumental. Ce qui s'est passé, moi, il y a un an de ça et qui est très, très important, ça a été l'écriture d'une symphonie hybride en plus, en mêlant des musiques actuelles et musiques symphoniques, mais tout ça dans un cadre strictement classique. C'est-à-dire que ce n'était pas du rock symphonique, c'était réellement de la musique classique, hein, juste un peu au goût du jour, avec deux guitares électriques au milieu, par exemple, mais comme on aurait pu avoir deux violons, qu'on avait d'ailleurs. Et cette écriture-là, pendant 9 mois, a été un travail de création très, très solitaire, plusieurs heures par jour, 7 jours sur 7. Pour écrire 500 pages de partition au bout du compte, quoi. Une symphonie en fait. Et il m'a fallu quelques mois pour m'en remettre, parce que c'était un travail éprouvant. Et derrière ça, je pense que j'avais besoin de recréer avec d'autres, et pas entre musiciens. Et donc j'ai commencé d'abord réellement à écrire. Puis ça a créé des évocations, les textes, des évocations musicales, photographiques et autres. Et le projet s'est construit comme ça. J'ai retapé, j'ai réécrit certains morceaux qui existaient dans Shape, 2 sur les 7 qui sont présentés dans la plume de Moïra, qui ont été vraiment très réagencés, très repensés et chapitrés différemment aussi. Et ensuite, le reste de la création est nouveau. Cependant, ce que j'ai composé là pour la plume de Moïra, donc en tant que compositeur au même titre que le photographe ou le vidéaste, reste dans ma constellation, celle que je me suis choisie. Là, ça y est, maintenant, je suis assis dedans. Donc, elle est influencée autant, voire plus, par mon travail sur la symphonie que, par exemple, sur Shape, il y a 5 ans de ça, en fait. Donc, il n'y a pas eu de cassure ni de reprise. Il y a eu 3 ans qu'on a tous connus, là, pendant... Il s'est passé des petites bricoles.
Un peu compliquées.
Voilà. Durant lesquels on n'a pas joué ni rien du tout avec Shape à l'époque. Le projet s'est éteint, donc pas sur des malentendus ni rien, quoi. Et la vie a fait que d'autres projets, moi, s'il y a un vide, il est vite rempli. Et donc d'autres projets sont arrivés. Et quand la plume de Moïra s'est un peu déclarée en moi, il y a quelques mois, hein, comme le disait Franck, c'est quand même très récent l'histoire, il fallait reconstruire une équipe. C'est vrai que j'en ai parlé avec notre bassiste, Trent, qui était dans Shape et qui a re-signé là. Et après, j'avais très, très envie de jouer avec Nathan Maliba, qu'on va voir tout à l'heure, un fou furieux de la batterie, qui a une carrière qui est en train de se développer de manière fulgurante. Et si je ne l'accrochais pas maintenant pour jouer avec
lui... C'était foutu.
Honnêtement, dans 2 ans, je ne sais pas où il sera au niveau international. Donc, c'était le moment. Et c'est des histoires de moments. Et ça, c'est la traduction de la plume de Moïra aussi. Le type est arrivé, si je parle de 5 minutes de Nathan, il est arrivé notamment sur le travail de ma symphonie, mais au piano, parce que c'est aussi un pianiste de fou furieux. Et donc je l'ai rencontré comme musicien il y a à peine quelques mois. Puis ça l'a fait humainement. Voilà. Du coup, on s'est dit, allez, on va tenter un truc ensemble. Et au-delà de ça, je vais parler vite fait de celui que je connaissais le moins de tous, qui était Clément, le guitariste de La Plume de Moïra, que j'ai mis très longtemps à trouver. Très, très longtemps. Et tant mieux, parce que du coup, là, j'ai le bon. Mais avec Clément, il y a 4 mois de ça, on ne s'était encore jamais vu. Et maintenant, ça le fait très bien.
Parfait. Bah, ça a l'air d'être un bon ensemble. Et puis, on a encore quelques minutes pour parler en fait, du reste du collectif, justement, des invisibles, enfin, les ombres, les fameuses ombres. Donc, il y a de la philo, de la photo, de la vidéo. Qu'est-ce qu'il y a encore ? J'en oublie.
Sculpture. Peinture.
Ouais.
Infographie,
ouais.
Qui fait un travail à la fois technique autour du groupe que nous
autour
sommes,
mais
qui a aussi une partie artistique et qui nous a pondu là, il y a 2 jours ce qui va être notre affiche de concert pour au moins l'année à venir. Et qui, là, pour le coup, est tout à fait artistique. Chaque membre a son art à mettre en œuvre. Ouais. Et moi, j'ai un regard, et Franck aussi en tant que scénographe, global. Mais on n'impose pas un courant ou quoi que ce soit, en fait.
Et alors, justement, ce soir, tous les membres de La Plume de Moïra ne seront pas là. On va en croiser quelques-uns quand même. De manière générale, là, ce soir notamment, je vois face à nous, on a des œuvres, justement, des œuvres graphiques de La Plume de Moïra. Est-ce que, de manière générale, on peut imaginer, ou ça s'est déjà passé, des formes de happening? C'est-à-dire que peut-être que les visibles d'aujourd'hui ne sont pas forcément les mêmes qu'à la prochaine fois. Des gens qui vont prendre la parole alors qu'ils ne font qu'écrire, etc. Qu'on fasse un petit peu, pas forcément tourner les rôles, mais qu'en tout cas, il y ait une sorte de connexion, un pont comme ça sur d'autres événements. C'est prévu ? Sans dévoiler, je ne sais pas.
Hein. Oui, je pense qu'il y aura des connexions, forcément. La difficulté de ce projet, c'est les visibles. Parce qu'effectivement, ils sont visibles.
Et ils sont difficiles en plus.
C'est très compliqué pour nous. Pour nous, les invisibles. Donc, c'est vrai que trouver cet équilibre-là, entre visibles et ceux qui sont dans l'ombre, et les ombres, n'est pas évident. Donc, c'est un équilibre à trouver, mais enfin, qui va se trouver naturellement. Enfin, moi, j'ai aucun souci à ce niveau-là. On en a suffisamment parlé. J'ai aucun souci. Au contraire, même, je trouve que c'est très intéressant et rare. Ce sont des projets rares, comme il faut le dire, d'un point de vue culturel, d'arriver à associer des artistes aussi différents. C'est très, très rare. Hein. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans la culture. J'ai rarement vu ça, quand même. Il faut vraiment le dire. Donc effectivement, il y aura. Moi, j'ai l'intention de faire des expos, donc forcément, ça sera des expos photos où il y aura La Plume de Moïra dedans. Alors à ce moment-là, il y aura pas les musiciens, mais il y aura d'autres choses de La Plume de Moïra. Et je pense que c'est ça qui doit exister, quoi. C'est-à-dire, c'est un mouvement où on n'est pas toujours tous ensemble, mais on représente la même chose.
Oui, j'ajouterais. Moi, je trouve ça magique de voir, par exemple, voilà, un artiste qui, tout d'un coup, dans une expo, dans une galerie, aura une partie de son expo, La Plume de Moïra. Ça, c'est trop kiffant, en fait, à voir. Et l'autre chose, c'est que ce qui est très intéressant, notamment pour les musiciens, les visibles, parce que ça, c'est pas habituel, c'est que là, on est dans une phase où on a plutôt un concert et on ramène, pendant le concert, les œuvres. Que ce soit en vidéo projection ou comme aujourd'hui au SOS Musique en direct, on a une expo qui est montée dans la salle. Dans l'année qui arrive, on a déjà des plans qui sont par exemple un festival d'art contemporain qui donc nous appelle, La Plume de Moïra, pour notre partie peinture photographie, et à laquelle on dit oui, mais attendez, La Plume de Moïra, il y a aussi la musique, hein. Donc on va se retrouver à jouer aussi dans des lieux
qui sont pas forcément dédiés à ça.
Tout à fait, tout à fait.
Ah, super. Bon, On en a effleuré une partie, une petite partie. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Et puis, après tout, ce projet, j'imagine, n'est pas fermé. Il peut évoluer, accueillir d'autres membres, peut-être en laisser partir d'autres qui ont envie de voguer vers d'autres horizons. Donc, à suivre de très près. Merci. Plume de Moira a retrouvé... pour les visibles en concert ce soir et pour les ombres déjà en expo là maintenant. Merci beaucoup.
Merci.
À bientôt.
Merci.